Bonsoir. Divergence de vue entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur deux projets de loi, à savoir la loi sur la CENI et le budget 2013. Pour la CENI, la divergence porte notamment sur la composition de cette institution, alors que pour le budget, elle porte sur la réaffectation des recettes additionnelles dégagées par les deux chambres. Comment analyser ces divergences entre ces deux chambres du Parlement? Nous recevons comme invité pour en parler Maître Moïse Nyarugabo, sénateur de l'opposition et cadre du parti politique Rassemblement Congolais pour la démocratie RCD. Honorable Nyarugabo, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Willy Makiachi, député national de la majorité au pouvoir et cadre du parti lumumbiste Unifié Palou. Honorable Makiachi, bonsoir.
Bonsoir.
Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, c'est Al Kitenge, analyste politique et économique. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, pour vos réactions. Goël Espoir Kabamba de Kananga au Kasai Occidental. Pour moi, ces divergences prouvent maintenant combien ces deux chambres travaillent de façon indépendante, sans une quelconque pression politique. On voit vraiment que la jeune démocratie évolue. Teddy Tendilongue de Bukavu Sud Kivu, les divergences de vues entre ces deux chambres reflètent la vraie image de l'homme politique congolais qui, pour se mettre d'accord sur une petite chose, il faut toujours une médiation internationale. Mais qu'à cela ne tienne, le peuple attend toujours un aboutissement qui sera en sa faveur, car qu'à une classe politique comme d'habitude. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Deux textes de loi divisent l'Assemblée nationale et le Sénat, la loi de finances exercice 2013 en seconde délibération et la loi organique portant organisation et fonctionnement de la nouvelle CENI, Commission électorale nationale indépendante. Au terme des travaux de la commission mixte paritaire des deux chambres, les divergences sont restées intactes alors que le Parlement vient de clôturer sa session extraordinaire. Jeff Ngoy.
Pour le budget 2013, le rapport ECOFIN du Sénat renseigne que la plus grande divergence réside dans la réaffectation des recettes additionnelles dégagées par les deux chambres. Au lieu de soustraire de son budget 5 milliards de francs congolais, l'Assemblée nationale s'ajoute 2,4 milliards à son budget. Par contre, elle ampute le budget du Sénat de 700 millions de francs. Concernant la restructuration de la CENI, là encore, les députés veulent politiser cette commission. La divergence majeure demeure la composition de la CENI. Pour les députés, ces animateurs doivent être nommés à majorité par leur formation politique. Ils adoptent un projet de loi qui définit préalablement les fonctions de chaque membre. En revanche, les sénateurs proposent que les futurs animateurs de cette institution proviennent majoritairement de la société civile et soient désignés par leurs pairs réunis en assemblée plénière. Ils souhaitent que celle-ci adopte son propre règlement intérieur qui détermine les fonctions de chaque membre de la commission. Le souci étant de rendre cette institution plus indépendante et neutre des formations politiques. Puisque les divergences persistent, c'est le vote des députés qui l'emporte sur celui du Sénat, conformément à l'article 135 de la Constitution.
Merci Jeff Ngoy. Maître Moïse Nyarugabo, vous êtes sénateur de l'opposition et cadre du parti politique Rassemblement Congolais pour la démocratie RCD. Le Sénat a clôturé hier lundi 14 janvier, sa session extraordinaire. De façon générale, très brièvement, qu'est-ce qu'on peut retenir du déroulement de cette session?
Il faut retenir qu'au niveau du Sénat, nous avons voté beaucoup de lois. Je crois plus d'une dizaine de textes que nous avons adoptés et on a fait un travail remarquable. Je crois que c'est peut-être, je n'ai pas vérifié avant de venir, mais je sais que c'est beaucoup plus d'une dizaine de lois que nous avons adoptées. Et donc, c'était une courte session d'un mois, mais au cours de laquelle nous avons voté beaucoup de textes, en ce compris les deux textes sur lesquels nous n'avons pas trouvé de compromis avec les amis de l'Assemblée nationale.
Alors, par rapport à l'émission, nous allons commencer d'abord par la loi financière, exercice 2013. Ensuite, dans la deuxième partie, nous prendrons la loi sur la CENI. Sénateur Nyarugabo, j'ai ici le rapport de la commission ECOFIN du Sénat et je vais lire un extrait. Ces dernières années, l'Assemblée nationale semble à tort s'ériger en responsable de la gestion du Sénat en violation des dispositions constitutionnelles. Cette attitude est susceptible d'entamer la crédibilité du Parlement si elle débouche sur une crise au sein de l'institution. Finalement, le Sénat en a marre, en d'autres termes.
Disons que, d'abord, voter les textes en termes divergents, c'est constitutionnel. C'est prévu par l'article 135 qu'il peut arriver que les deux chambres ne trouvent pas un compromis, qu'il y ait des navettes, qu'à l'issue des navettes, la commission paritaire, mixte paritaire, ne trouve pas de compromis. En ce moment-là, l'article 35, le dernier alinéa, stipule que c'est le point de vue de l'Assemblée nationale qui prime. Donc c'est constitutionnel. Mais il faut que ce soit justifié. Il faut que ce soit important. Et il faut qu'ils aient de bonnes raisons pour exploiter cette disposition et pas simplement utiliser ça finalement comme une arme, comme chaque fois une menace. Vous discutez en commission paritaire, vous donnez tous les arguments, on vous dit, bon, on va utiliser l'article 135. Voilà un peu ce qui gêne le Sénat, c'est tout. Mais pour le reste, c'est constitutionnel.
Alors par rapport à la loi financière, qu'est-ce qui gêne tant le Sénat?
Et je veux que ce soit une fois pour toutes clair. Ce qui gêne le Sénat, ce n'est pas qu'on réduise son budget, non. D'ailleurs, on ne nous sert jamais conformément à ce qui est écrit dans le budget. C'est toujours en deçà. Ce qui gêne le Sénat, c'est que ce soit l'Assemblée nationale qui coupe le budget du Sénat sans concertation, sans harmoniser, vraiment comme un fait de prince. Alors que l'article 100 de la Constitution stipule que chaque chambre, c'est aussi clair que ça. Chaque chambre a une autonomie financière et administrative et dispose de sa dotation propre. Chaque chambre fait son budget. Et quand l'Assemblée nationale décide, en fait de prince, de changer le budget de l'Assemblée nationale, du Sénat, sans consultation, sans harmonisation, nous estimons que c'est violer les dispositions de la Constitution, mais aussi ça commence à paraître comme si effectivement les amis de l'Assemblée considèrent le Sénat comme un département de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas acceptable. Le Parlement congolais bicaméral dispose des deux chambres qui sont indépendantes. Le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est ce que veut la Constitution. Pour le reste, nous n'avons pas de problème. Le premier budget que nous avons voté ensemble, le Sénat n'a pas demandé d'augmentation. Il a gardé la proposition venue du gouvernement. Les amis de l'Assemblée nationale se sont ajoutés 5 milliards. Le budget nous a été renvoyé. Quand le budget nous a été renvoyé, le Sénat n'a rien demandé encore. Et il fallait enlever les 5 milliards que l'Assemblée nationale s'est ajoutée. Alors, comme c'est l'Assemblée nationale qui a commencé, elle n'a même pas enlevé les 5 milliards. Elle a enlevé les 5 milliards et puis elle s'est encore octroyée 2 milliards 400 en créant une autre rubrique de diplomatie parlementaire. Mais au-delà de ça, maintenant, elle est rentrée dans le budget du Sénat qui est venu du gouvernement auquel on n'a jamais rien ajouté, on n'a rien réclamé pour couper 1 milliard 300 millions. Fait de presse, nous sommes deux chambres. Sœurs, le minimum, c'est de discuter parce que chaque chambre vote son budget. Voilà ce qui a constitué
la pomme de discorde.
Mais pour nous, ce n'est pas qu'on réduise. On peut réduire, on peut couper, si c'est nécessaire, ajouter à d'autres rubriques, mais ça doit se faire de manière consensuelle parce que nous sommes deux chambres autonomes.
En d'autres termes, on est très loin même des réaffectations, des réaménagements que le chef de l'État a demandé.
Non, parce que en réalité, les réaffectations devaient concerner les 5 milliards. Et on avait décidé que les 5 milliards devaient être affectés, et d'autres d'ailleurs, c'était pas seulement 5 milliards, devaient être affectés aux rubriques comme l'office des routes et d'autres rubriques relatives à la sécurité. Bon, mais dès lors que les 5 milliards avaient été affectés à l'Assemblée nationale, nous, comme ils ont l'article 135, qu'est-ce qu'on pouvait bien faire? Mais quand on nous a renvoyé la loi, c'était le moment de s'assagir et de prendre les 5 milliards intégralement, les affecter aux autres rubriques et ne pas essayer de prendre 2 milliards 400 millions à l'Assemblée nationale et de donner 600 millions au Sénat. Le Sénat a dit on n'en a pas besoin. Gardez ça, affectez ça à autre chose.
Honorable Makiachi, vous êtes député national de la majorité au pouvoir et cadre du parti Lumumbiste Unifié Palou. Un mot également sur le déroulement très rapidement de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale.
Merci beaucoup. D'entrée de jeu, je dirais que la session extraordinaire a été fructueuse par rapport au temps nous imparti de 30 jours tel que la Constitution le veut. mais le travail abattu a été des titans et il a produit beaucoup de supports importants pour la marche de la République, notamment la loi sur la CENI dont vous parlez qu'il fallait finaliser, la loi des finances, le budget de l'État pour les exercices en cours 2013 qu'il fallait également finaliser. Vous avez également la loi d'habilitation du gouvernement, et parce que les parlementaires vont à vacances parlementaires, il fallait laisser des instruments de gestion, et notamment sur les plans de législation, il fallait accorder au gouvernement le pouvoir de légiférer pendant les vacances parlementaires par voie d'ordonnance et loi que le président de la République plutôt prendrait. Et il y a autres instruments aussi internationaux qui ont été avalisés et beaucoup. Donc on a beaucoup produit en un temps record. Ça a été salué tant à l'Assemblée nationale qu'au niveau du Sénat, donc au niveau du Parlement, dans son ensemble, on a travaillé d'arrache-pied.
Alors revenons au budget 2013. Vous avez suivi le sénateur Nyarugabo. Finalement, l'Assemblée nationale dégaine chaque fois pour menacer le Sénat avec l'article 135 de la Constitution. Finalement, vous coupez un morceau du budget du Sénat sans concertation, de façon unilatérale. Comment vous répondez?
Mais voilà, la question est tout à fait de grande importance, mais je ne veux pas ici qu'on puisse rentrer dedans par nous, les représentants des deux chambres seules, comme Maître Moïse l'Honorable l'a dit tout à l'heure. Parce que vous voyez, et si nous entrons dans les chiffres, là on est en train de parler des coupes, on parle de manière globale. Mais si nous entrons dans les chiffres, dans cette réaffectation, pour demander aujourd'hui, à l'heure qu'il est, combien touche un député national relevant de l'Assemblée nationale, combien touche in fine, un sénateur, membre de cette autre chambre sœur, le maître honorable Moïse Niaouab à mes côtés, ainsi que le Sénat dans son ensemble, devrait dire que le député national touche de loin moins que le sénateur. Mais est-ce que faudra-t-il entrer...
Presque la moitié.
Oui, il est présent, il peut le dire, mais je ne veux pas que nous puissions nous rentrer dedans plutôt, pour étaler ici et ce qui relève des secrets d'État et autres aspects qu'il faut évoquer là-bas, ça doit dénoter d'une grande responsabilité. Donc, mais ce que Maître dit, il dit que c'est vrai, on ne doit pas brandir ça comme l'effet des princes pour dire l'article 130. Il a bien raison, mais il faut nuancer pour dire que l'Assemblée nationale ne sait pas arroger cet argent-là de la manière dont cela est dit. Et puis pourquoi devrait-il être fait? C'était des recettes allouées à la défense. Tout le monde a su lorsque le compte rendu a été donné, même la loi lorsqu'elle a été acceptée pour envoyer auprès du président de la République pour promulgation. Vous avez vu que le budget de la défense et sécurité a évolué jusqu'à 60, par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc c'était pour des raisons de la défense nationale appelée de tous les vœux par tous les Congolais. À ce moment-là, par rapport au nombre de députés, de 500 députés, ils ont chacun un assistant autant que les sénateurs. Les sénateurs, il y a, je crois, 103 sénateurs. Ils ont 103 assistants. Vous prenez 500 députés, ils ont 500 assistants. Le budget, lorsqu'on parle des chiffres, ça paraît impressionnant. Mais dans cette affectation et réaffectation, en réalité, les députés nationaux, jusqu'ici, sont défavorisés par rapport aux sénateurs. Vous prenez des montants qu'on donne in globo, mais vous dites combien chacun touche comme bénéficiaire. Vous verrez que ce sont les sénateurs qui sont beaucoup plus en fait favorisés. Mais faudra-t-il entrer en détail de tout cela? Je ne pense pas en ce moment. Mais c'est qu'il faut évoquer.
Si je comprends, honorable Makiachi, les députés nationaux étaient motivés par le souci en fait de revoir un peu à la hausse leurs émoluments, en d'autres termes.
Non, pas du tout. Le problème a toujours été posé au niveau du gouvernement. Le Sénat le sait. Le problème a toujours été posé, mais l'Assemblée nationale a compris qu'il faut y aller graduellement, parce que c'était devenu difficile même que les députés nationaux touchent les mêmes montants que les sénateurs. En termes de dotations dévolues à chacune des chambres, le Sénat est favorisé par rapport à son effectif. Mais justement, la réaffectation par rapport à la nouvelle délibération devrait tenir compte de cet aspect. Combien de sénateurs y a-t-il? Combien leur faut-il? Combien de députés y a-t-il? Combien leur faut-il en termes de bénéficiaires individuels sur le plan numérique et en termes d'institutions, parce que les volumes de ces recettes dépend également du volume de la composition de chacune des chambres. Donc, mais la vérité est celle-là.
En tant que chambre sœur, cela ne devrait-il pas se faire de manière consensuelle, concertée?
Bien sûr, ça c'est de mise, c'est constitutionnel, et c'est des bonnes lois, mais cela a été fait parce qu'il y a eu la commission mixte paritaire. Qu'est-ce que signifie commission mixte paritaire? Il y a eu la commission mixte paritaire.
Et les divergences ont demeuré.
Mais justement, vous parlez des divergences. Pour qu'on parle là des divergences, il faut qu'il y ait eu concertation, il faut qu'il y ait eu échange. Ce n'était pas de manière cavalière, ce n'était pas par l'effet des princes.
Merci. Al Kitenge, vous êtes analyste politique et économique. Comment vous analysez tous ces débats autour des divergences, notamment portant sur le budget 2013?
Le budget 2013 lui-même pêche par ce que nous disons tout le temps, sa taille. Ça sous-entend qu'en fait, ce genre de discussion auquel nous faisons, nous participons aujourd'hui, démontre de manière assez claire que, faute de moyens de travail, les gens se disputent des fois pour des cacahuètes. En fait, il faudrait quand même que vous vous rendiez bien compte. On parle là des 5 milliards de francs congolais, c'est près de 5,5 millions de dollars. De quoi nous parlons dans un pays comme celui-ci? On perd le temps et de la République et du personnel politique. Ce n'est pas acceptable. Il faudrait qu'on soit décent. Ce genre de discussion, on n'est même pas censé les porter sur la place publique. Il s'agit d'un pays. Nous sommes un pays de 2 345 000 km². Nous sommes 70 millions de personnes. 5 millions de dollars. De quoi nous parlons? Il faudrait que nous soyons un peu plus sérieux. Et ce que je regrette, par contre, c'est ce que j'entends autour de la table. J'ai en face de moi des opérateurs politiques qui disent « Oui, mais vous savez, nous discutons d'un budget, mais à la réalisation, on se fout pas mal de ce budget. » Ça traduit toute l'indiscipline notoire qui caractérise le personnel politique de ce pays et ceci n'est pas acceptable. Il y a deux règles en matière budgétaire. La première règle, c'est que le budget, il est la transpiration de la volonté de la société. Qu'est-ce que nous désirons faire? En ce moment-là, on alloue des budgets, on alloue des montants pour qu'on puisse réaliser le rêve commun. À partir de ce moment-là, les montants qui sont alloués aux différentes tâches ne devraient pas poser problème. Le deuxième élément, et c'est un composant important du budget, c'est la comptabilité. Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on fait un budget, après on doit rendre compte de la qualité de la dépense. Est-ce qu'on a effectivement en temps réel, en temps voulu, affecter les montants nécessaires à ceux qui avaient été dits? Et ça pose toute la question fondamentale de notre communauté en tant que pays, c'est la transparence. Vous savez, j'entends le gène qui caractérise l'honorable Makiachi tout à l'heure lorsqu'il met en évidence les questions de rémunération des députés. Ces questions ne devraient même pas être cachées, ça devrait être connu de tout le monde. Et ça, ce pays, il vit comme ça, nous vivons dans l'obscurantisme et c'est ce qui justifie justement que le citoyen congolais se méfie des politiciens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens, quand ils regardent les politiciens, ils les considèrent comme les tortionnaires de la communauté nationale. Pourtant, les politiciens sont les personnes à qui nous donnons le mandat de gérer la République en notre nom par les différents mécanismes de désignation. Et je pense là-dessus qu'il est important de se rendre compte que la responsabilité des députés, et la responsabilité des sénateurs, je veux dire du Parlement tout court, est une grande responsabilité. C'est les gens qui déterminent les réglementations qui nous gèrent. C'est des gens à qui nous devons avoir confiance. C'est des gens à qui nous donnons le destin du pays. Et il est important que quand il y a des petites disputes d'argent, que ce genre de choses se fasse de la manière la plus discrète possible. Cette situation n'est pas acceptable.
Prenons cette réaction qui nous vient de Kinshasa pour vous, Al Kitenge.
Donatien Kanyinzia, député national honoraire. Je suis présentement à Kinshasa ici. Je regrette cette sorte de guerre qui est à l'Assemblée nationale parce que c'est la porte sur des intérêts financiers de chaque chambre et pourtant le chef de l'État a renvoyé le budget pour une relecture dans l'objectif de dégager si nous avons des moyens pour la défense et qu'on se retrouve devant des arguments plutôt à terme de diplomatie parlementaire qui justifierait encore des gaps inutiles de l'ordre de plus de 2 milliards. Je pense que l'Assemblée nationale doit se montrer un peu plus sérieuse par rapport à cette question parce que la diplomatie parlementaire, elle est inefficace. On n'a pas besoin que cela consomme inutilement les moyens. Il faut que tous les moyens soient concentrés sur la défense. Et donc, cette discussion-là, elle est censée justifier pas. Il faut qu'on arrête avec ça.
Voilà, il vous rejoint pratiquement à Kitenge. Il faudrait qu'on arrête avec ce genre de discussions concernant le budget. Mais par-delà cette discussion à Kitenge, qu'est-ce qu'il fallait voir d'essentiel dans ce budget, malheureusement, dont vous dites qu'il pêche déjà par sa taille?
L'essentiel, et je l'ai dit de manière assez claire, un budget, il répond à une vocation. Qu'est-ce que nous voulons faire? En termes de priorité, quelle est notre priorité d'aujourd'hui? Celle qui nous permet d'être sûr que demain nous serons encore là. C'est toute la question de la vie politique. En politique, on est soumis à énormément de soubresauts. Et le premier soubresaut qui nous guette aujourd'hui, c'est la guerre multiple que nous avons sur l'étendue de la République. Mais il y a une deuxième forme de guerre que nous ne regardons pas, c'est la pression sociale. Un jour, les Congolais peuvent s'énerver contre ces personnes à qui nous avons donné notre destin, et leur dire, mes amis, vous ne nous faites plus confiance, nous ne nous faisons plus confiance, vous ne nous donnez plus la sécurité de penser que vous vous occupez de notre destin. Et ça, on a tendance à le négliger, mais c'est quelque chose qui nous menace tout autant. Regardez ce qui s'est passé au cours du printemps arabe, dont on parle de grande mémoire aujourd'hui. C'est des choses qui peuvent un jour arriver en République démocratique du Congo. Et moi, à chaque fois que j'ai l'opportunité de parler à nos frères qui ont choisi la politique comme métier, c'est de leur dire, vous avez le devoir d'être plus sérieux que tout le monde. Et des fois, malheureusement, l'ensemble de choses qu'ils font sur la place publique et dans l'obscurité la plus totale sont des fois inquiétantes. Oui.
Voilà. Nous allons prendre la réaction de l'Assemblée nationale, du président de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale qui réagit quant à la coupe effectuée dans l'enveloppe destinée au Sénat. Et le président de la commission ECOFIN pense que le Sénat n'a pas eu la même compréhension de la demande du chef de l'État quant à l'augmentation du budget de la défense. Pour le président Muto Kambali, il est une évidence que la ponction soit effectuée dans toutes les institutions du pays. Il le dit au micro de Jacques-Yves Molima.
Ce qui concerne nos aînés du Sénat, ils n'avaient pas eu la même interprétation de la lettre du chef de l'État. Pour eux, il était question qu'on coupe seulement à l'Assemblée et pas au Sénat. Parce que les coupes qu'on a opérées, nous pensions que c'était judicieux. Chaque institution doit contribuer à cet effort de guerre, justement. Donc, nous avons dit que, effectivement, le budget du Sénat, pris dans sa proportion actuelle, est plus élevé. Donc, si on prend un sénateur comme agrégat de calcul, le sénateur coûte plus cher que le député. C'est une injustice, c'est un déséquilibre qui doit être corrigé. Mais pour l'instant, c'est pas le cas.
Pour le Sénat, vous avez touché à son autonomie financière. Ils se sont basés sur l'article 100 de la Constitution.
Non, c'est une interprétation qui ne tient pas parce que quand on évoque l'article 100, je crois que c'est hors contexte. Il s'agit d'une législation, ce n'est pas la gestion. Il est hors de question de penser qu'effectivement on s'est mêlé dans la gestion interne du Sénat dans la mesure où la loi n'est même pas encore promulguée.
Réaction sénateur Moïse Nyarugabo, il aborde pratiquement dans le même sens que l'honorable Makiachi. Bon, finalement, vous avez suivi Al Kitenge, le député honoraire Donatien Kaninze, qui dit qu'il faut arrêter avec ce genre de discussion.
Trois petites choses. Je suis totalement d'accord avec lui, avec les deux intervenants d'ailleurs. Si vous avez vu la réaction du Sénat à la dernière séance, on n'a même pas fait de débat parce que nous estimons que c'est des questions qui doivent se régler entre adultes. En fait, même lorsque l'Assemblée nationale veut utiliser l'article 135, et c'est ça notre demande, elle doit le faire avec la plus grande élégance. C'est tout ce qu'on demande, parce que c'est prévu dans la Constitution. Deux autres dernières choses. Lorsque l'Assemblée nationale réfléchit en termes d'un cinquième, on dit il y a 108 ou 103 sénateurs, il y a 500 députés, c'est le 1 cinquième. Mais là où il se trompe, la partie qui concerne le 1 cinquième, c'est uniquement les rémunérations des parlementaires. Mais nous avons la même taille du bureau, les mêmes nombres de membres du bureau, les mêmes nombres de cabinets, la même taille de l'administration. Alors, si on doit appliquer le 1 cinquième au bureau, on aura 1 cinquième du bureau de l'Assemblée, on aura 1 cinquième du cabinet, on aura 1 cinquième de l'administration, on va en fait gérer le bâtiment, entretenir le bâtiment par 1 cinquième, ça ne peut pas marcher. Mais pour le reste, on n'entre pas dans les détails, mais c'est des questions qui se règlent avec élégance. La dernière chose, je pense qu'il y a aussi une question d'organisation et de gestion interne. Je me demande, je ne juge pas, je n'accuse pas, chers amis de l'Assemblée, je me demande si même si on vous donnait le double ou tout ce que vous pouvez réclamer. Si vous ne vous organisez pas à l'interne pour bien gérer ce que vous recevez, vous n'allez pas avoir les mêmes avantages. Je regrette.
Abordons directement la question de la CENI, sénateur Moïse Nyarugabo. À ce niveau-là, on se souvient encore de la guerre entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Lorsqu'il fallait installer la CENI, ça posait beaucoup de problèmes. Finalement, l'Assemblée a fini par donner raison un peu au Sénat, mais on revient encore, c'est du déjà vu.
Monsieur le journaliste, cette question nous chagrine. Il y a 2 ans, nous avons eu ce débat sur la CENI. Nous avons insisté que nous laissions la CENI à la société civile. Il n'y a personne qui soit totalement, manifestement indépendant. Non, tout le monde peut être influencé. Mais la société civile a au moins la présomption d'indépendance. Mais lorsque nous appelons notre commission, la commission indépendante, et nous désignons les animateurs par les forces politiques, les forces politiques s'interposent même dans le choix des postes qu'ils vont occuper au sein du bureau, et à la fin, vous voulez qu'ils soient indépendants. Quand même. Comment ça va se faire? Donc, et nous pensions que, avec cette réforme, je m'excuse de cette expression, que l'Assemblée va s'assagir, va comprendre qu'on a commis l'erreur. Elle a commis l'erreur parce que, une fois de plus, il y a 2 ans, elle a voté la loi sous la CENI en exploitant l'article 135, donc en ne considérant pas le point de vue du Sénat. Et aujourd'hui, tout le monde nous a crié dessus. On est revenu sur la loi, sur la CENI, et il faut des réformes. Et nous pensions que cette fois-ci, effectivement, nous allons apporter des réformes. Mais, curieusement, ce sont les mêmes réalités qui reviennent. Retenez. Les amis de l'Assemblée nationale nous proposent une plénière. Bon, ils avaient refusé avant deux organes. Cette fois-ci, ils acceptent 2 organes, mais cette fois-ci, c'est 13 personnes, une plénière de 13 personnes, dont 6 au bureau. Donc il n'y a que 7 qui ne sont pas membres du bureau, mais qui sont membres de la plénière. Quel va être le pouvoir de ces 7 personnes qui n'ont pas une importance en termes de numérique et qui n'ont aucune fonction?
Voilà, nous allons prendre pour vous, sénateur Nyarugabo, cette réaction qui nous vient de Dungu en province orientale.
Thomas Landa, à province orientale, territoire de Dungu. Concernant la loi électorale, le Sénat veut ralentir le processus car il sait qu'il est hors mandat.
Réaction au sénateur.
Non, le Sénat n'est pas hors mandat. Je le renvoie simplement à la Constitution. Le Sénat est en fonction jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau Sénat. Je crois qu'il ne faut pas rentrer dedans. Et de toute façon, nous, on n'est pas là. On ne dit pas qu'on y est, on y reste. Le jour où il y a un nouveau Sénat, au revoir, le même jour. Donc, mais je voulais quand même dire
deux choses. Très rapidement, je vous en prie.
Regardez, il y a un problème au niveau de la composition, au niveau des organes de la CENI, au niveau de la composition, au niveau des origines. L'Assemblée nationale veut désigner directement qui va être président, qui va être vice-président, qui va être rapporteur, il viendra de quelle force, et cette force-là qui va le désigner. Et la plénière aura quelle compétence.
Et donc, on ne sera pas sorti de la politisation.
On n'est pas sorti de l'auberge.
Voilà. Honorable Makiashi, comment vous répondez à l'argumentaire du sénateur Nyarugabo en ce qui concerne la CENI? Décidément, l'Assemblée nationale campe sur sa position. On n'est pas sorti de la politisation, finalement.
Ben non, ça n'est pas le cas. Peut-être un problème de lecture, comme le président Moutokamba, il a dit tout à l'heure, de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Ça dépend de, c'est peut-être un problème de lecture. Peut-être, au vu des échanges, si nous pouvons discuter en aparté ou en dehors d'ici avec Maître Nyarugabo, que je connais très bien, par rapport à la maîtrise qu'il a de certaines questions scientifiques et politiques, nous pourrons nous mettre d'accord. Mais au débat, peut-être, ça paraît autrement. Je voulais apaiser M. Alkitenge, parce qu'il a parlé du jeune Makiashi qui mettait à l'évidence dont en termes de cachet la paye de parlementaires. Non, pas du tout. Lui-même l'a dit qu'en réalité, ça c'est lui-même qui l'a dit. Il dit ce genre de questions ne devraient pas être portées sur la place publique. Donc il a dit la même chose que moi. Je ne voulais pas porter justement sur la place publique les détails de la question. L'honorable Nyarugabo venait de le dire pour une seconde fois. Il dit, on ne peut pas entrer en détail de ces questions. Il y a l'autre intervenant, le parlementaire honoraire, qui venait de dire également qu'il faut arrêter ce genre de débat sur la place publique. Donc vous voyez que c'est ce que j'ai pu faire, mais je n'ai pas caché, ne m'appartient pas à moi, de dire combien on paye ou de dire combien on ne paye pas. Parce que cela relève d'une loi. Une loi n'est pas cachée, elle est, lorsqu'elle est publiée au journal officiel. Mais n'est-ce pas, nul n'étant censé ignorer la loi, donc cela est connu de tous. Alors, je n'ai rien caché.
Ça, c'était pour clôturer le volet budget. Abordons maintenant la CENI.
Oui, du côté CENI, j'ai dit, il ne s'agit pas pour l'Assemblée nationale de désigner les membres issus des autres composantes devant composer la CENI au niveau de la plénière. Non, ce n'est pas ça la lecture. Pour l'Assemblée nationale, la présidence de la CENI est confiée à la société civile. Mais c'est pratiquement la société civile qui dirige la CENI au regard des pouvoirs, des attributions, des compétences dévolues à ses présidents. C'est lui qui préside aux destinées, nous avons déjà eu à le dire sur vos antennes, c'est lui qui préside aux destinées de la Commission électorale nationale indépendante. Donc, mais la désignation du président de la CENI qui relève de la société civile, cette désignation proviendra de la société civile, justement. C'est elle qui va s'organiser pour le désigner. L'Assemblée nationale ne pourra que entériner la désignation qui proviendra. Ce n'est qu'un problème de procédure pour légaliser, donner une force de loi à cela. Donc, un entérinement et non pas la désignation. Ils désignent eux-mêmes, l'Assemblée nationale entérine, n'en discute même pas. Les débats peut tabler peut-être sur la qualité si on connaît les défauts ou quoi de la personne, si quelqu'un soulevait des aspects particuliers. Mais on ne discute pas de la désignation, mais on procède à son entérinement en tenant compte des critères irrelatifs. Alors, mais à ce moment-là, il n'y a pas la divergence en réalité n'a pas raison d'être. Vous voyez que la divergence est fondée sur les nombres. C'est plus l'aspect numérique qui caractérise cette divergence que toute autre chose. Parce que l'Assemblée nationale parle de 13 et au total et le Sénat parle de 26. Avec argument et la représentation des 26 provinces. Mais rendez-vous compte que on n'en finira jamais. Il y a la loi sur la Commission nationale des droits de l'homme que nous venions de voter au niveau du Parlement dans l'ensemble. Il n'y a pas au bureau ou dans l'ensemble, il n'y a pas 26. Le bureau du Sénat lui-même, le Sénat est l'émanation des provinces. Il a bien raison d'agir ainsi. Mais est-ce que le bureau du Sénat lui-même est composé de 26 membres représentant 26 provinces? On ne peut pas en finir parce que les autres membres ont rang de vice-ministres. Donc on aura un mini-gouvernement où le président est ministre et les autres membres sont vice-ministres. Donc, on aura 25 membres ayant rang de vice-ministre.
Alors, prenons pour vous, honorable Makiashi, cette réaction qui nous vient une fois de plus de Kinshasa.
Oui, ça se met ici, depuis Kinshasa. Moi, je pense que les députés doivent comprendre que la proposition du Sénat est la meilleure, d'autant plus qu'elle permet aux membres du bureau à ce qu'ils ne puissent pas avoir des obligations envers leur parti. Pourquoi? Parce que quand c'est les partis qui nomment, ce dernier est automatiquement considéré comme étant les patrons.
Bref réaction, honorable Makiashi.
Non, les partis ne nomment pas. Je viens d'expliquer. J'ai dit, c'est un problème de compréhension, un problème d'interprétation. Les partis ne nomment pas, c'est la désignation. L'honorable Moïse lui-même a dit que personne n'est en réalité neutre de façon brute.
Absolue.
Donc la neutralité procède du comportement à observer au regard des missions vous dévolues et en fait regardées par la loi, consignées par la loi. Ce n'est pas par rapport à votre source de désignation.
Merci.
Alors, au niveau de l'Assemblée nationale, donc il y aura la plénière. La plénière, c'est elle qui est l'instance décisionnelle. Donc personne ne pourra faire prendre sa décision de son parti politique que la plénière.
Merci. Al-Kitenge, concernant le débat sur la CENI, quel est votre point de vue?
Mon regard sur cette question est un regard de stratège. Je ne voudrais pas regarder ça avec un œil politique. Le mien est assez aveugle. Je pense qu'il y a là une phase pédagogique qu'il faut prendre. Ce pays vient de sortir d'un cycle électoral qui ne s'est même pas encore d'ailleurs terminé, assez perturbé. Je pense que c'est un devoir aux hommes politiques qui nous entendent, et particulièrement ceux qui sont avec nous sur ce plateau, d'élever le sens de responsabilité. Nous avons des devoirs vis-à-vis de cette communauté. Et je crois simplement qu'il faudrait que nous soyons très, très responsables. Alors moi, je dis simplement une chose. Lorsque on est au Sénat ou lorsqu'on est à la Chambre basse, ça ne voudrait pas dire qu'on est un savant. Tous les parlements du monde commandent énormément d'études. Ce qui serait bien pour ce genre de choses au niveau de notre Parlement, c'est de s'appuyer sur les analyses scientifiques. Ça aiderait les gens en toute indépendance de comprendre comment ils peuvent résoudre les problèmes. Deuxième chose, il faut élever les Congolais à un rang de respect suffisant. Lorsque nos différents représentants au Parlement parlent, ils doivent le faire avec en tête les Congolais. On a besoin d'une communauté, d'une société harmonieuse. Les lois doivent rester impersonnelles pour que chaque fois qu'il y a une alternance, les gens ne viennent pas faire des lois qui sont comme des costumes. Et donc, moi, je dis tout le temps, encore une fois, l'éthique devrait être la valeur fondamentale au niveau des personnes qui nous représentent, et ceux qui sont au Parlement le sont au plus haut niveau parce qu'ils sont réellement l'émanation de la population. Mais en fait, moi, je ne m'inquiète pas beaucoup. Ce que nous voyons dans le milieu politique, c'est ce que nous avons mis au-dessus. Mais c'est exactement la transpiration de ce qui se passe en bas. Notre communauté est terriblement corrompu. Notre communauté est terriblement indisciplinée. Et c'est pour ça que je pense que lorsque vient le moment de vouloir mettre les instruments citoyens qui déterminent l'avenir du pays, tout le monde veut tirer la couverture de son côté. S'il s'inscrivait dans le long terme, ce genre d'exercice n'existerait pas.
Alors, quand vous parlez de cette phase pédagogique Al Kitenge qui semble plutôt manquer dans la société congolaise, cela justifierait-il une certaine cassure que l'on peut observer entre l'élite et la base?
Déjà que notre pays est fragmenté du point de vue géographique, du point de vue de la sociologie, nous avons les très riches et les pauvres, les très pauvres. Malheureusement, la grande partie des très riches se recrutent dans le métier politique, ce qui est extrêmement anormal. Ça crée une certaine animosité. C'est pour ça que je dis, lorsque les opérateurs politiques agissent, ils doivent le faire en toute modestie et ils doivent le faire dans le respect total de la société. Nous sommes un pays où la population ne laisse même pas les mains libres aux dirigeants. De suite, de manque de confiance. Mais encore une fois, nous ne pouvons pas avoir des dirigeants et les empêcher de nous diriger. Et donc, il est important qu'ils se battent dans une procédure pédagogique à mériter la confiance auprès de la population. Et je crois que les députés et les sénateurs, pour autant qu'ils sont l'émanation de la communauté, ils ont le devoir de garder ce fil conducteur et être à mesure d'éduquer les citoyens sur la manière de prendre leur charge.
Alors, Al Kitenge, vous parlez également des études, des analyses dans les autres parlements du monde. On commande des études. En ce qui concerne, par exemple, la loi, cette loi sur la CENI, qu'est-ce qui aurait dû être fait, par exemple?
Mais vous vous rendez bien compte que les sénateurs et les députés agissent tous de bonne foi, chacun se référant à ce qu'il estime être important, mais on ne traite pas une question aussi importante que celle-là, qui vient d'une grande crise politique et sociale dans notre pays, en se référant à notre propre maturité. Je pense simplement qu'il est important, et il est important qu'ils mettent dans leur budget des budgets de recherche et d'études. C'est pour ça que le monde entier fait exactement la même chose. Vous avez un homme comme Sarkozy, il arrive au pouvoir à l'époque. En fait, il dépense des milliards de dollars pour commander des études spécifiques secteur par secteur. Nous sortons d'une crise aussi sévère que celle que nous avons connue. Le doigt, y compris celui du chef de l'État, est pointé sur la CENI, on ne commande aucune étude. C'est complètement inacceptable.
Et donc, on condamnerait un peu à tort la CENI.
Il faut mettre le doigt dans la plaie et il faut gratter le doigt dans la plaie jusqu'à ce qu'elle soit propre. Et pour ça, il est important d'avoir le regard des scientifiques indépendants, des gens qui n'ont rien à voir avec la politique. Il y a des professeurs d'université, il y a des cabinets à travers le monde. Vous leur demandez de vous donner un avis. Ils vous en donneront pas un seul, ils vous en donneront un avis pluriel, 3 ou 4. Et vous aurez les options. Ils vous diront toujours, voici la version A, voici les avantages et les inconvénients. Voici la version B, avec les avantages et les inconvénients. Et la même chose pour la version C. De toute façon, vous avez la décision, mais vous décidez en toute connaissance.
Merci Al Kitenge, vous êtes analyste politique et économique. Je signale en même temps qu'il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Sénateur Moïse Nyarugabo, vous êtes sénateur de l'opposition et cadre du parti politique Rassemblement Congolais pour la démocratie RCD. L'honorable Makiachi dit que c'est plutôt une question d'incompréhension. Quelle est votre réaction?
Non, bah écoutez, ceci c'est une question d'incompréhension, c'est parce que justement c'est mal présenté. Ce qui se conçoit bien, s'énonce bien, et les mots pour le dire viennent aisément. Mais quand ça vient difficilement, c'est normal qu'on ne comprenne pas. Regardez, monsieur le journaliste, on ne reproche pas à la loi de l'Assemblée nationale simplement pour une guéguerre. Non, regardez, l'article 10 dit que les membres de la CENI vont être choisis par les forces politiques au sein de l'Assemblée nationale, majorité et opposition, et les autres par les groupes de la société civile. Alors, comment les membres vont être désignés par les forces politiques au sein de l'Assemblée nationale? Dans l'entretemps, l'article 12 de la loi qui n'a pas été révisé donne le droit d'entérinement à la même Assemblée nationale. Donc, la désignation à l'Assemblée nationale, l'entérinement à l'Assemblée nationale, ce n'est pas logique. On dit que les groupes de la société civile qui vont désigner les membres de la CENI, ce sont les confessions religieuses, les organisations féminines et des droits de la femme et les organisations d'éducation civique et démocratique. Où sont passés les syndicats? Où sont passées les organisations socio-professionnelles, les ordres des avocats, des médecins, des pharmaciens, des ingénieurs, même les ONG des droits de l'homme, les journalistes et les autres? Alors, lorsqu'on n'accepte pas cette loi, ce n'est pas pour rien. Il y a des choses inacceptables. Monsieur le journaliste, l'article 13 de la Constitution interdit toute discrimination pour les différences, disons, par rapport à toutes les différences concernant l'accès aux charges publiques.
Alors, excusez-moi, sénateur, parce qu'il nous reste moins de 4 minutes, il faudrait qu'on soit le plus bref possible.
Je vais résumer.
Alors, maintenant que la session a pris fin, ça a été adopté en des termes différents, c'est le point de vue de l'Assemblée qui compte. Alors, qu'est-ce qui va se passer?
J'espère que l'Assemblée nationale a corrigé ces choses. Le quorum des décisions et le quorum de siège, c'est la même chose pour l'Assemblée nationale, c'est la majorité absolue. Alors que nous avions proposé une majorité, disons, les deux tiers pour le siège et la majorité absolue pour la décision.
Et en guise de conclusion, faut-il craindre, avoir des craintes?
Nous avons demandé que les membres de la CENI actuelle soient démissionnaires à la promulgation de la loi. Eux ne veulent pas qu'on en parle, ils disent que la loi, cette question est réglée par la loi en vigueur, et nous disons, alors pourquoi nous faisons des réformes? Si cette loi est bonne, pourquoi nous faisons des réformes?
Honorable Makiachi, réaction.
Oui, merci. Voilà, je répète plutôt que c'est plus un problème d'interprétation, de compréhension. L'honorable Moïse dit que peut-être que ce n'est pas bien présenté. Je ne sais pas s'il peut avoir raison à ce point de vue. La présentation également dépend de la manière dont vous la percevez. Mais l'article 10 dont il parle, pour la désignation, les forces politiques à l'Assemblée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un problème de la proportionnalité. La proportionnalité des forces politiques, la représentativité des forces politiques, c'est par rapport au quota. Combien avoir par rapport aux forces politiques telles qu'elles sont présentées? Mais la discrimination, il n'y en a pas. La difficulté provient de ce qu'on appelle le concept de société civile en République démocratique du Congo. Il n'y a aucune loi en République démocratique du Congo qui consacre les concepts société civile. Il y a plutôt des associations et autres organisations qui se muent en société civile. Et là, c'est ça la difficulté. Ça veut dire que les ordres des avocats, des médecins, des syndicats et tout ce que l'honorable a cité, c'est tout ça qui est mué en ce qu'on appelle société civile, donc forces vives de la nation.
Et donc, en guise de conclusion...
Et ces forces vives doivent s'organiser pour désigner un président qui doit présider aux destinées de la CENI telle que cela leur est reconnu.
Alors, en guise de conclusion, honorable Makiachi... ne faut-il pas craindre qu'on ne revive l'expérience de la CENI dont on voudrait modifier la loi?
Non, il n'y a rien à craindre parce que lorsque l'honorable a la crainte que les membres de la CENI doivent être démissionnaires, c'est le fait de la loi, c'est automatique. Merci. Et non, monsieur Hall a dit que nous sortons d'une grande crise politique et sociale. Merci. C'est ce que l'Assemblée nationale a pris en compte parce que ce qui est devenu une loi est un consensus
Merci.
Politique.
Hall Kitenge, conclusion.
Les politiciens congolais doivent libérer les Congolais. Ils doivent arrêter de nous prendre en otage. Il est important que chaque fois qu'ils décident, qu'ils se souviennent qu'ils décident en notre nom. Et en ce moment-là, ils doivent être comptables, et ça tout le temps.
Sénateur Nyarugabo, libérer la population.
vous, politiciens congolais?
C'est tout ce que nous essayons de faire, mais j'ai l'impression que l'Assemblée nationale, en cette matière, continue à politiser la CENI et nous risquons d'avoir les mêmes résultats.
Malheureusement, on a l'impression que c'est une guéguerre qui va se prolonger sur d'autres matières.
Nous allons, non, disons, j'espère que, justement, tout le monde va s'assagir parce que ce n'est pas pour nous que nous les faisons, ce n'est pas pour nos intérêts, c'est pour le peuple, c'est pour la population, c'est pour le pays, c'est pour nous tous. C'est pour cela que nous devons le faire avec humilité.
Merci. Cette émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Radio Capi.